critiquer les autres. Non, non, non. Donc ça, c'est un exercice difficile, terrifiant. Ça, c'est une conversion. Et là, encore une fois, vous savez, c'est terrible. J'ai appris cela, moi, du grand travailleur pour faire changer des ennemis. Parce que ça, il m'a semblé à un moment donné que c'était ça le vrai problème. L'impossible, c'était ça. Puisque l'amour, c'est l'amour qui nous est attendu. On est attendu, et ça, c'est assez vite. J'ai eu cette perception que l'intensité de vie qui était en moi ne trouverait son bonheur que dans l'amour. Que mes amours humains n'étaient qu'une recherche d'un infini d'amour. Et là, la parole de Jésus m'est parue d'une façon très claire. C'est que l'entrée, la véritable entrée dans l'amour, il n'y a d'amour, que nous a dit Jésus à un moment donné, que lorsque l'on aime ses ennemis. Parce qu'avant, qu'est-ce que c'est? C'est des partages de jouissances. D'aimer ceux qui nous aiment. Ils disent du bien de nous, je dis du bien de toi, jusqu'au jour où tu dis du mal de moi, et je vais dire du mal de toi. Ouais, vous voyez bien, c'est des entre-déchirements formidables dans les couples séparés. Nous sommes aimés, nous avons vécu beaucoup de grâce, nous avons partagé, ah, nous avons ces merveilles ensemble, nous avons créé ensemble. Et puis ça s'entre-déchire tous les. Ah oui, vigilance, vigilance, vigilance. Et donc, puisque nous sommes appelés à l'amour, j'ai perçu très vite que le point clé du problème, c'était l'amour des ennemis. Et qu'il y avait aujourd'hui, on avait un spécialiste. On a eu la chance. Notre monde a vu un prophète se lever qui était un spécialiste de ça. Bon, vous le savez, Gandhi, hein? Qui a pris son message non pas dans la tradition indienne, non pas dans la tradition orientale, pas du tout. C'est au pied de Jésus-Christ qu'il est venu la chercher. Tous les jours, il récitait le sermon sur la montagne. Fidèle à sa tradition, il travaillait sur la guitare, etc. Mais c'est de Jésus qu'il a appris cela. Et ce n'est que de lui qu'il l'a. Et donc, alors, aimer les ennemis, eh bien, pour aimer ses ennemis, la première chose, c'est de ne pas dire du mal de lui. On aime, la meilleure, première manière où on peut aimer son ennemi, c'est de dire du bien de lui. Alors, dans nos disputes, hommes-femmes, réussir à nous disputer en disant du bien, voilà ce qui nous attend. Voilà la bagarre que nous avons amenée. Dire du bien de l'autre. Donc le partage en profondeur comme un élément fondamental de la conversion. Il n'y a pas de conversion sans ce passage par là. Et l'apôtre Jacques le dit, celui qui n'a pas maîtrisé sa langue n'a pas commencé le travail. On pourrait prendre, si vous voulez, le passage que l'on avait pris hier dans notre Bible, qui était celui de Moïse et du buisson ardent. On s'est arrêté en cours de route. Hein. Donc Exode chapitre 3. Et on était arrivé, je crois, au verset 5, hein, voilà. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et donc, en effet, il y a cette obéissance de Moïse. Il obéit, il se détourne, il se convertit, il fait une métanoïa. Hein, la conversion, dans le langage grec, conversion, hein, c'est se retourner, se dit métanoïa. C'est une sorte d'accouchement nouveau, hein, devenir, redevenir un nouvel homme, hein, entrer dans le nouvel homme. Et donc, Et ça demande une obéissance. Et puis donc, parce qu'il enlève ses pieds, il enlève ses sandales, il va voir, il regarde, et là, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Là aussi, il observe ce monde, il le voit, et Moïse fait cette expérience, l'humanité fait cette expérience. Vous pouvez, nous faisons cette expérience, que ce monde est habité. C'est là où, hein, pour retrouver Dieu, vous le savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas à aller loin. Hein. Là, instantanément, d'un déclic intérieur dans votre cerveau, là, que vous repositionnez et vous remettez, il est là, tout est plein de lui. Il est dedans, il est dans le souffle, il est là dans vos regards, il est dans ces plantes qui tentent de vivre, toutes celles-ci là qui essayent, malgré cette ombre là, de pousser et... Y arriveront-ils ? Dieu est dedans et avec. Hein ? Et donc, Moïse fait cette expérience, et là, progressivement, eh bien, ça lui vient, hein, ces paroles qui peuvent lui venir intérieures. Mais Moïse se voile la face, car il craignait. Ah non, c'est au verset 6, et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Quand on s'arrête, on reçoit des éclairages. On reçoit des éclairages sur d'où nous venons et où nous allons. Et puis, alors tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Alors Moïse se voila la face car il craignait de fixer son regard sur Dieu. Alors on voit bien aussi comment était l'Ancien Testament. La même problématique de est-ce qu'on peut voir Dieu, est-ce que, etc. Et puis, cette révélation intérieure, Yahvé dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Et ça, dès qu'on s'approche et dès qu'on se met à l'écoute de cette parole intérieure, ça, c'est quelque chose qui vient. J'ai vu, il y a Dieu qui dit, je vois, je sais, je comprends. Je vois, je partage. Tous nos soucis, tu as vu, mais tu te rends compte, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Toute cette injustice, ces difficultés. Oh, et oui, j'ai vu. Alors, et oui, je connais tes angoisses. Je connais les angoisses de mon peuple. Et puis, on voit alors les choses. Et va, je vais te conduire vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie. Et ça, ça fait partie aussi pleinement hein, de ce mystère de la vie intérieure. C'est que... dans ces paroles qu'on entend, il y a cette conviction. Que nous ne pouvons nous sauver qu'en aidant les autres à se sauver. Ça fait partie. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que l'amour agit. Donc on se retrouve là, les pauvres que nous sommes. Hein. On a il y a à faire un peu autour de nous. Là, ce qu'on peut donner. Hein. Voilà. Va, je t'envoie. Oui, je t'envoie. Donc hein, c'est en texte hein, qui nous parle, hein, ces paroles qui nous viennent. Alors si je retourne un petit peu à mes, je devrais essayer de les retrouver. Nos incontournables, que je ne vous en oublie pas quand même. Puisqu'on est jeudi, nous aurons donc encore un enseignement demain. Hein, court. Hein, il y aura un enseignement court, une conférence qui sera courte, puisque nous aurons le bilan de la semaine. Et c'est justement pour ne pas être oublieux de toutes les paroles que nous avons reçues. On prendra un temps hein, de, percevoir. Hein, c'est qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que et qui est pour où je vais maintenant, hein, c'est ma grande affaire. Hein. Qu'est-ce que j'ai à faire cette année qui vient, hein. On a ces temps, on a ces temps, hein, les rythmes nous sont donnés. Alors je trouve que c'est un beau temps, là, on a un temps qui est ce temps une fois par an, le temps des bilans une fois par an. Hein, on fait le point, on recule, on regarde un peu son année et puis on voit un peu tout cela. Et puis il va y avoir d'autres rythmes. Hein. Il va y avoir des rythmes qui peuvent être le trimestre. Il va y avoir un rythme qui est un rythme mensuel. Hein, certains d'entre vous viennent aux enseignements où on perdure, on continue. Hein, il y a tant de choses. Ma problématique quand le matin, je suis là et que je dis, mais il y a tant de choses à dire. Tant de choses à dire. Et je me dis, je vous renvoie aux enseignements. Hein. Ça fait aujourd'hui 10 années. Qu'il y a des enseignements une fois par mois. Hein. 10 enseignements, en gros 10 enseignements par an, ça fait qu'il y a 100 enseignements qui existent aujourd'hui. Et puis, il y a les réserves de vacances évangiles. Il y a fait donc, il y a combien 5, 6 conférences d'enregistrées, quasiment sur depuis 6 ans. Enfin, il y a du dépôt qui est là, pour ceux qui, alors, je ne dis pas que là, sont attentifs à cette parole-là. Trouvent que cette parole-là les aide. Et ils sont rejoints par ces paroles-là. Et ça fait partie de ces grappes qui sont sur la vigne. Il y a des grappes. Il y a la grappe franciscaine, il y a la grappe dominicaine, il y a la grappe jésuite, il y a la grappe des missions africaines, il y a la grappe de... il y a toutes sortes de choses. Et ça, c'est la grande diversité du peuple de Dieu. Mais... si vous êtes de ce peuple-là, où cette parole-là vous parle, mangez-la, pour ne pas demeurer des micro-carottes. Mangez-la. Alors, il y a ces rythmes, il y a le rythme de la semaine. Hein, vous le savez, nous ne nous en cachons pas. Un rythme essentiel de la semaine, pour Joël et moi, c'est le partage. Hein, notre partage. Ce lieu, un lieu qui est un lieu exactement comme ce lieu où nous vivons là, hein, nos partages. Un lieu où on n'est pas là pour donner des leçons à l'autre. On n'est pas là pour le rectifier. On est là pour se donner à l'autre. C'est différent, un partage où je viens pour régler mes comptes, ou rectifier les affaires, ou pour me livrer dans mes recherches, mon identité, mes difficultés. Hein. Et puis, il y a un rythme quotidien. Hein? Je sais, j'aurais beaucoup de mal à vivre si je ne prenais pas mon petit déjeuner. Mais j'ai aussi un petit déjeuner avant le petit déjeuner. Si je n'ai pas un temps avec ma source qui me donne cet amour qui me fait vivre, eh ben je suis un pauvre homme. Je suis vraiment un pauvre homme. Je sens des envies de chou. J'ai des envies de chou, c'est incroyable. Et puis, quand je vais là le matin comme ça, ah, j'ai des désirs de nectar qui me montent. C'est drôle. C'est comme ça. Donc il y a des rythmes hein, aussi. Alors, je retrouve ma liste. J'avais fait quelque part une liste. J'ai d'autres choses à vous dire, non, mais cette liste, je vais la retrouver. Ah, elle est partie. Eh bien, c'est tant mieux. Parce que aussi, cet engin m'a fait un tour. À un moment donné, il y a un problème d'enregistrement de quelque chose. Mais un tour, sûrement... de magie. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous allons prendre un passage extrêmement important qui est devenu de plus en plus important pour moi à la fin de l'évangile. On imagine que la fin d'un évangile, quand les évangélistes terminent leur livre, c'est pour dire des choses importantes. Alors, on va prendre la fin d'un évangile que vous connaissez aussi très bien, qui est l'évangile de Marc. Fin de l'évangile de Marc. Il est d'autant plus important, et je le prends comme ça, c'est que vous savez que les évangiles ne se sont pas écrits en un jour, c'est qu'il y a toutes sortes de variantes, il y a toutes sortes de choses, et il y a, entre autres, un moment où, à la fois, chaque évangile existe en lui-même, mais l'ensemble des évangiles et des actes des apôtres s'est construit, a été construit comme un tout. Hein? Initialement dans des lieux différents, mais progressivement s'est mis en place dans, a été travaillé par des rédacteurs, l'Église primitive, jusque vers 120, 150, va s'atteler à malaxer ce texte pour qu'il corresponde bien à ce que l'on attend de lui pour former les chrétiens, pour que les générations futures entendent la parole vivante de Jésus dans ces textes. Et donc, il y a un texte, il y a aussi ce qu'on appelle des codex, des lieux où c'est rassemblé. Il y en a un particulier où, très important, dans le, qu'on appelle le codex de Bèze, où les évangiles ne sont pas dans l'ordre dans lequel les communautés ont décidé définitivement de les poser. Aujourd'hui, les évangiles sont dans le style Matthieu, après Marc, Luc et Jean. Pendant toute une période de la vie chrétienne, hein, des communautés, cet ordre n'était pas comme ça. Vous avez trouvé que c'était pas non. Il y avait un autre ordre des évangiles, dont le codex de Bèze, un manuscrit qui date à peu près du IVe siècle et que nous avons, et qui a un lien très précieux parce qu'il est entre autres lyonnais et qu'il a un lien avec Irénée de Lyon, donc toute une, et avec Irénée de Lyon, avec Polycarpe, et de Polycarpe va à Saint-Jean. Donc on a une lignée johannique là. Et donc, dans ce texte du Codex de Bèze, les évangiles sont Matthieu, Jean, Luc et Marc. Et quand on analyse ça, on s'aperçoit qu'à cette époque-là, on positionnait Jean au milieu des deux grands évangiles synoptiques, Matthieu et Luc, pour le mettre en valeur, parce que c'était comme ça qu'à l'époque se faisait une mise en valeur. Aujourd'hui, on met la mise en valeur par la fin. Et donc, on met Jean en dernier. Hein? Et donc, il était mis en valeur là. Et le petit évangile de Marc était à la fin. Et donc, à cette époque-là, et on sait très bien que les dernières paroles de Marc sont parmi les plus définitives. Elles sont très tardives. Et même certains ne les incluent pas. De ces chrétiens qui cherchent à être le plus rigoriste possible, quasiment, quand on recherche les valeurs ultimes, il y a des passages de l'évangile qui ne prennent pas. Et là, on ne veut pas le prendre. Et donc, dans Marc, on a ce dernier passage étonnant. On peut prendre dans Marc au chapitre 16, verset, je crois que c'est 9. 15 minutes. Merci. Ressuscité le matin du premier jour, s'étant levé de bonne heure. C'est ça que ça veut dire, ressuscité, hein, c'est enlevé. S'est enlevé le matin du premier jour de la semaine, il est ressuscité, il est vivant dans le cœur des disciples. Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais, entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Même chez ceux avec qui il a vécu. Mais, après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux autres d'entre eux qui faisaient route pour se rendre à la campagne, ce qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs. Et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, eux non plus, on ne les crut pas. quand vous essayez de parler de Jésus, de parler de la vérité, de la transformation des choses, ben vous savez que c'est... Il y en a d'autres qu'on n'a pas cru, hein. Donc, ce n'est qu'un normal, hein, qu'on n'accueille pas que avec admiration et émerveillement, et avec un sentiment de reconnaissance, toute cette belle vérité que vous pouvez apporter. Hein, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, il se manifesta aux onze, alors qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit, « Allez par le monde entier, proclamez les bonnes nouvelles à toutes les créatures. » Des bonnes nouvelles, pas des mauvaises nouvelles. Allez proclamer des bonnes nouvelles. Pas des fausses nouvelles, des vraies bonnes nouvelles. Alors, celui, et c'est beau, c'est à toutes les créatures, celui qui croira et sera immergé dans cette vie, sera vivant. Celui qui ne croira pas, se restera dans sa pauvreté. Et voici, alors c'est ça, c'est sur ça que je voudrais, hein, vous demander. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Donc le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout, et le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. La fin de l'Évangile. La fin de l'Évangile et la fin du Nouveau Testament, de cet ensemble qui nous parle du mystère de Jésus, nous dit, voilà les signes qui vont accompagner ceux qui sont en train de passer de chenille à papillon. Et qu'on n'a pas besoin d'être un papillon complet pour pouvoir en témoigner, parce que la transformation à cela répond à ce que chacun attend. Tout homme espère devenir papillon. Et alors, ces quatre choses-là, hein, sont incompréhensibles. Ils chasseront les démons. Première chose, ils vont chasser des démons. Votre proximité, votre approche, vos discussions, votre échange avec Jésus, votre accueil de Jésus vous donne autorité sur les démons. Qui sont-ils, ces démons? Hein? Bien sûr, on ne va pas entrer dans le dualisme. Hein, qui sont-ils? Vous avez toute autorité pour chasser les retours sur soi. Vous avez toute autorité pour chasser les doutes. Vous avez toute autorité pour chasser les culpabilités. Vous avez toute autorité pour chasser les distractions et le divertissement. Vous avez toute autorité pour couper, trancher. À un moment, Jésus dit, mais si ta main t'entraîne là où il ne faut pas, mais coupe là. Voyez un peu. Donc, vous avez autorité pour ça. Hein? Vous avez autorité pour décider de ne pas perdre votre temps. Vous avez autorité pour ne pas vous laisser prendre aux importuns qui vous mangent votre temps. Vous avez autorité. Parce que la première œuvre des démons, s'ils existaient, ce serait de vous faire perdre du temps. La grande problématique, c'est celle du temps. C'est la chose la plus précieuse que nous avons, le temps. Retarder les affaires. La maturité fait élaguer, découvrir et investir sur le prioritaire. Bon. Donc c'est ça, chasser les démons. Chasser les démons, hein, ne pas se laisser aspirer ailleurs, quoi, hein, dévier, aller sur le prioritaire, Marthe et Marie. Et donc c'est le lien avec toutes vos perles, qui est votre identité. Là où vous n'allez pas selon votre identité, c'est perdu. Pour un autre, c'est peut-être bien de faire ça. Mais évidemment, un autre serait peut-être bien qu'il se lance et qu'il fasse de la musique. Mais bien sûr. Mais vous, votre identité, avez-vous le temps de faire ça? Premier élément. Deuxième élément. Ils parleront en langue nouvelle. Est-ce que vous n'y voyez pas là une confirmation? Ils parleront en langue nouvelle. Bon, j'en ai parlé suffisamment tout à l'heure. Sortir de la pandémie, de la critique, une espèce de vigilance très grande. Et avec ce souci, qu'est-ce ce que je suis en train de dire là? Est-ce que ça va construire? Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va restaurer mon frère dans le cœur de ceux avec qui je suis en train d'en parler? Ou bien, est-ce que c'est une des manières d'essayer de saper, hein, de saper. Vous savez qu'une des choses aussi, ça c'est Jésus qui le dit souvent, hein, que ce démon, ces démons qui sont en nous, ils s'appellent souvent accusateurs des frères. Hein, accusateurs des frères. Donc voilà, ils parleront une langue nouvelle. Alors là, ben, ils parleront avec implication personnelle. Ils resteront pas sur la superficie, ils parleront d'eux et non pas des autres. Hein? Dans leurs mains, ils élèveront des serpents. Alors celui-là est particulièrement complexe. Hein? Particulièrement complexe. Dans leurs mains, ils élèveront des serpents parce qu'on n'est pas de la culture hébraïque, hein, et qui se fondait, qui est fondée pour lequel continuellement, hein, il y a la référence à Moïse dans le désert et cette affaire du serpent. Hein. Ils élèveront le serpent, ils prendront le serpent, c'est pas que quand ils vont se promener dans la campagne qu'ils vont avoir des serpents et que les serpents vont pas les mordre. On n'en est pas là, vous savez, quand même, dans l'évangile. Hein. Non, on est ailleurs. C'est que c'est le même serpent que l'on voit sur les pharmacies, sur les enseignes de pharmacie. Vous savez que ce caducé qui est là, ce serpent, hein, dans toute l'Antiquité, ben le serpent, il était là aussi. Parce que depuis, avec les affaires de Moïse, Moïse avait brandi un serpent pour que l'on soit guéri. Et donc, ils prendront dans leurs mains, ils élèveront les serpents, c'est qu'ils vont travailler, ils vont œuvrer pour faire du bien, pour aider plutôt que d'enfoncer, hein, relever. Ils élèveront l'aventure, hein, de la santé, quoi. Ils annonceront, ils diront toujours cet optimisme fondamental que Dieu est avec nous, que nous pouvons, malgré tout, faire confiance aux hommes. Hein, c'est ça d'élever le serpent. Et puis, s'ils boivent un poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. De très beaux hommes, hein, que nous aimons beaucoup, nous en lisons les textes. Parmi les quatre témoins que nous avons toute cette semaine, qui nous accompagnent, dont vous avez goûté à l'intensité des textes, deux ont passé leur vie dans les pleurs de difficultés avec leurs autorités ecclésiastiques, dans des conflits permanents, et de réussir. Et quand vous prenez les textes, étonnant, les textes de Labertonnière ou les textes de Teilhard de Chardin, vous ne trouverez pas une seule fois une critique contre l'Église. Avons-nous autant souffert qu'eux et mesurons la manière dont nous parlons de l'Église? S'ils boivent un poison mortel, c'est ça, boire un poison mortel, c'est la calomnie. C'est la non-reconnaissance. C'est l'injustice. C'est la moquerie. C'est l'indifférence. Voilà. Eh bien, à l'intérieur, cela ne leur fera aucun mal. Ce mal qui fait dévier, ce mal qui fait s'arrêter, ce mal qui, ça va leur faire mal. Et nous avons vu combien la souffrance était là, a été au cœur du mystère, de la mutation chenille-papillon, mais cela ne leur fera pas du mal. Aucun mal. Ils avaleront ces poisons mortels parce qu'ils seront inoculés, parce qu'ils savent et qu'ils conservent continuellement des paroles qui sont des trésors. Si nous n'avons pas dans notre poche les pierres précieuses, des certitudes que Dieu nous dit et nous, que nous sommes, de l'or que nous sommes, dès que l'un va venir et nous dire, mais où les difficultés qui vont nous arriver, nous allons être à plat ventre, effondrés, perdus, alors que si nous avons notre or pour pouvoir dire, ah, il y a un amour qui me tient. Peut-être ai-je tort, je suis prêt à le vérifier. Je me souviens, hein, je vous dis ça comme ça, je revenais de mon voyage en Inde, j'avais marché pendant presque une année en Inde, et je revenais en autostop, j'avais pris le train jusqu'à la frontière du Pakistan, et je revenais à pied et en autostop à travers d'abord le Pakistan, etc. Et puis j'arrive le soir, je n'allais pas dans les hôtels, je me mettais au bord d'une rivière ou quelque part, et j'étais au bord d'une rivière près de au Pakistan, où je voyais dans le fond l'Himalaya, enfin les chaînes, la grande chaîne de l'Himalaya. Et puis est arrivé là deux policiers, il était le soir, il était 7 heures, je m'arrêtais, je voulais faire de l'essentiel. Faire mes prières, faire mon temps de réflexion, méditation. Et puis, là, les policiers arrivaient, puis ils traînaient comme un chien, un homme qui était enchaîné avec des vraies chaînes. Hein. Et ils sont arrivés, et puis, hey, « Hé, toi, viens avec nous !» Hop là. Et, mais ils m'ont embarqué avec eux, parce que ben, voilà, j'étais un espèce de rôdeur, j'étais quelque chose. Et me voilà arrivé dans une prison, d'une petite ville de province pakistanaise, et mes deux policiers fouillent mes affaires, mon petit sac à dos, et moi j'avais un trésor. J'avais découpé patiemment dans toute une pile de vieilles revues gandhiennes des photos de Gandhi, de Vinoba, de tous les disciples de Gandhi et Vinoba, et j'avais ça dans mes affaires. Oh, un espion. Voilà, un espion. Et alors, toute une affaire qui arrive, voilà, ben j'avais ça, et alors on dit, ouais, ça, c'est les menteurs, ils nous ont menti tout le temps, les vrais qui nous ont dit la vérité, ce sont nos leaders musulmans qui nous ont vraiment éclairer et nous dire qu'on allait se faire avoir par eux. Ils ont eu raison de la partition et qu'il faut faire attention. Et nous sommes en train d'essayer nous ne nous serons pas faire par l'Inde. Ah. Et moi, je leur ai dit, mais peut-être avez-vous raison. Moi, vous savez, si vous avez raison, eh bien, comme je ne cherche que la vérité, si vous avez raison, je suis prêt à rester. Je suis prêt à rester en prison autant de temps qu'il le faudra. Fournissez-moi des livres, envoyez-moi des gens pour m'enseigner. Mais je crois aujourd'hui que ces hommes-là, que c'est pour ça que j'ai leurs photos, ce sont des hommes bons, qui n'ont vu que chercher la paix, etc. Oh, mais mes deux gaillards qui étaient là... Bon. Après une journée de palabres, etc., on m'a remis dehors. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de fou? On va s'encombrer avec ce mec, il veut rester en prison pour chercher la vérité. Bon, juste pour dire, hein, nous avons en nous quelque chose pour éteindre les poisons mortels, quoi. C'est notre amour de la vérité. Sur les malades, ils imposeront les mains et ils seront bien portants. Alors là aussi, il ne s'agit pas d'aller, vous imaginez ce qu'on pourrait faire, d'imposer, non, imposer les mains, c'était tendresse, hein, de la main qui prend soin des uns des autres, et que parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire à quelqu'un qui pleure, c'est de pleurer avec lui. Hein, peut-être l'avez-vous vu, hein, quand dans nos partages, là, où l'un ou l'autre se met à pleurer. En général, ce qui se passe en moi, c'est que je le rejoins. Et alors, il y a quelque chose en moi de cette espèce d'intensité d'être proche de lui et où je me mets à pleurer avec lui. Ça s'appelle la compassion. Avant toutes les paroles, laissons à chacun le droit de pleurer, le droit du silence. Et après, lui dire ce que notre cœur a envie de lui dire. Bien. 0 minute. On prend les textes.
C'est pareil, tu donnes ça. Bon, c'est la même chose.
C'est vrai, je ne donne pas ce que tu veux.
Tu avais une chenille, hein, sur le pied. Elle est gentille d'être venue. Hein. Elle s'envoie en l'air. Hein. Elle est gentille d'être venue. Hein. Qu'on ait une chenille qui soit venue nous voir 6 jours quand même. On ne peut pas dire qu'on cherche des signes n'importe où, mais quand même. Donc on est le jour numéro...
5.
Merci.
Alors, attends, Sergio, on a encore là.
Et voilà. Et puis, la grâce qui nous a accompagnés de ne pas avoir l'orage encore. Hein, on a échappé, et ça c'est une chance, hein, une chance. Parce qu'on a beaucoup prié. Hein. Vous savez, hein, cette chose terrifiante, hein, prier intensément pour que les choses elles arrivent, ça c'est le fondement même du paganisme. Prier intensément pour que les choses arrivent, c'est du paganisme. Hein? Donc la grande affaire. Hein? Jésus toujours va dire, mais votre Père, c'est... Vous n'avez pas besoin de crier vers lui comme s'il avait oublié. Hein? Priez pour vous convertir, priez pour vous réfléchir à ce que vous devez faire dans la situation qui arrangera, qui fera avancer les affaires. Hein? Jour 5, Lucien Labertonnière. Lucien. Je suis venu, a dit le Christ, comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. croire au sens chrétien du mot, ce n'est pas s'aveugler, c'est ouvrir les yeux et les ouvrir le plus grand possible. C'est beau ça, hein? Alors qu'on imagine parfois, voilà, allez, on va s'enfermer, là, on est maintenant aux problèmes du monde, tout ça, on s'occupe de son salut personnel ou je ne sais pas quoi. Non. Ouvrir les yeux le plus grand possible. La vérité ne nous éclaire jamais qu'autant que nous répondons personnellement à ses avances, lui ouvrant tout grand notre cœur et notre esprit. Et ce n'est qu'à cette condition qu'elle nous libère. Demander qu'on nous l'apporte sans que nous ayons à la gagner, c'est en faire une chose. Or, la vérité n'est pas une chose. Elle est une vie, la vie de votre vie, de notre vie, qui ne se donne à nous qu'en se faisant conquérir par nous. Grand travail des chercheurs de vérité. Hein, chercheurs de vérité, c'était le thème d'un de nos sessions aussi de vacances évangiles. Hein, chercheurs de vérité. Il faut faire la vérité, hein, dit beaucoup Saint Jean. Bon, voilà, et ça, hein, elle ne se conquiert que si on fait des choses, on obéit. Hein. Vous aurez d'autant plus de lumière que vous obéissez aux petites lumières que vous avez. À peine a-t-il pris conscience de lui-même, en s'opposant au monde qui l'entoure, l'homme éprouve un double besoin. D'abord, s'expliquer tous les phénomènes qui se déroulent sous ses yeux. Ensuite, écarter tout ce qui le menace de le faire souffrir et mourir. Et enfin, satisfaire son insatiable désir de vie et de bonheur. C'est une sorte, hein, une analyse de qu'est-ce que c'est la vie. Dès que la conscience vient, voilà un peu ce qui se passe. Alors, une espèce d'opposition au monde qui l'entoure, hein, pour exister. Et là, on éprouve alors un double besoin, s'expliquer les phénomènes et écarter tout ce qui menace de le faire souffrir et mourir. Et enfin, satisfaire son insatiable désir de vie et de bonheur. Ils ne voient pas que le monde ne leur sera vraiment intelligible que du jour où ils se seront compris eux-mêmes et qu'ils posséderont la paix, le bonheur, que du jour où ils auront cherché le secret de la transformation même de leur être. Chenille, papillon. C'est là que ça se joue. En nous révélant ce que Dieu est et ce que Dieu fait par le Christ, l'Évangile nous révèle nous-mêmes à nous-mêmes. La vérité de cette révélation a pour objet, et à laquelle par elle nous accédons, c'est notre vérité. La vérité de cette révélation, hein, c'est notre vérité. Ce n'est pas une vérité extérieure. Je veux dire, la vérité dont, au fond de nous-mêmes, et primordialement, de par notre origine et notre destinée, nous éprouvons comme un obscur désir de chercher à connaître, pour que, en la connaissant, nous nous connaissions, et sachant nous d'où venons, nous sachons où nous avons à aller. C'est ça la grande problématique. Parfois, si nous perdons du temps sur le chemin, c'est que nous ne savons pas que c'est au tayadis qu'on doit aller. Et on se retrouve à Angoulême. On se retrouve. On ne sait pas où. Alors, c'est crucial le chemin. Il est dit, en parlant du Verbe, que la vie qui est en lui et qui est la vie de Dieu est la lumière des hommes. Il dit, c'est Jésus, hein, la parole, on parle d'évangile, hein, ce verbe, la vie qui est en lui, hein, cette vie qui est en lui, et c'est ça que les hommes ont vu. Hein, il est la lumière des hommes. C'est-à-dire, ce par quoi les hommes que nous sommes, considérés comme des consciences de soi, comme des intériorités spirituelles, qui ont à vivre l'infini et sont responsables d'elles-mêmes, peuvent connaître leur origine et leur fin. En s'approchant de cette lumière-là, qui est la lumière du monde, eh bien, les consciences que nous sommes peuvent trouver leur origine, leur fin et ce qu'elles ont à faire. En Dieu comme en nous, la vie ne saurait être la vie sans comporter, être, connaître et aimer. C'est une sorte aussi d'approche différente de la Trinité. On a dit Père, Fils, Esprit. Hein? On pourrait dire être, connaître, aimer. Les appels, les aspirations, et toujours, hein? Est-ce que je fais ce qu'il faut pour être? Est-ce que je travaille sur la problématique de l'être? Est-ce que je travaille sur la problématique de la connaissance? Est-ce que je travaille sur la problématique d'un amour dans mon quotidien? On ne peut être, en effet, au sens plein et vivant du mot, sans connaître et sans aimer. De même qu'on ne peut connaître sans aimer